Vous avez déjà beaucoup travaillé. J'espère que le digestif que je vais vous infliger ne vous restera pas trop sur l'estomac. Mais je suis reconnaissant, en tout cas, quant à moi, de pouvoir faire la connaissance de ceux que je ne connais pas encore parmi vous et de revoir ceux que je connais déjà. Je vous invite à une lecture biblique pour introduire notre travail de cet après-midi. Vous n'avez pas encore lu ce passage au cours du week-end, je m'en suis assuré, donc je le lis sans hésitation dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, les 16 premiers versets. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur et patience. Supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Cependant, chacun de nous a reçu sa part de la grâce divine selon que le Christ a mesuré ses dons. C'est pourquoi l'on dit, montant dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a donné des dons aux hommes. Il est monté, qu'est-ce à dire? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants, nous ne nous laisserons plus ballotter et emporter à tout vent de la doctrine au gré de l'imposture des hommes et de leur astuce à fourvoyer dans l'erreur, mais vivant selon la vérité et dans la charité, nous grandirons de toute manière vers celui qui est la tête, le Christ, dont le corps tout entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionnent selon le rôle de chaque partie, opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même dans la charité. Connais-toi toi-même, c'est ce qu'on pourrait dire aux églises évangéliques. Nous nous contentons souvent d'une sorte de semi-conscience de ce que nous sommes, happés par les urgences, obligés de faire face aux plus pressés. Nous négligeons assez souvent de nous connaître nous-mêmes. Nous possédons notre être sans avoir de lui un véritable savoir. Alors cela vaut mieux qu'une excessive préoccupation de nous-mêmes. Mais il y a un équilibre entre cette complaisance pour soi, cette fascination par soi de celui qui se contemple des heures dans la glace tous les jours, et puis la négligence de celui ou celle qui se rase ou se coiffe sans même se servir d'un miroir. Alors je voudrais vous tendre cet après-midi un tel instrument. Il a quand même son utilité parfois. Et des raisons actuelles me semblent confirmer l'opportunité de cette démarche. Si je vois bien, on constate aujourd'hui deux mouvements, plus ou moins divergents d'ailleurs, de sens contraire même, mais liés ensemble dans notre petit monde évangélique. J'en vois certains qui sont impatients de ce qu'on pourrait appeler la clôture évangélique. Il remettait en question la séparation stricte que beaucoup ont admise entre ceux qui sont de notre parti, de notre camp évangélique, et puis les autres, les non-évangéliques, catholiques ou protestants. Certains se disent, mais c'est un peu un mythe, que cette solidarité évangélique qui ferait qu'on ne se pose pas de questions du moment qu'on est entre évangéliques et qu'on considère qu'un fossé infranchissable sépare des autres. Il y a un courant de ce genre qui existe. D'autre part, quelqu'un comme Mademoiselle de Védrine, qui a des dons d'observation et je pense aussi un bon observatoire quant aux milieux évangéliques divers de notre pays, est très frappée par le durcissement de nombreux évangéliques quant aux traits spécifiques, aux traits propres des divers groupes. Il y a comme une volonté de se montrer selon sa dénomination, avec les caractères qu'on est seul à détenir, qui ne semble pas avoir été si marqué il y a 20 ou 30 ans. Après la découverte des évangéliques les uns par les autres, il semble qu'on constate aussi un mouvement d'accentuation des traits spécifiques dans la diversité. Ces deux mouvements me paraissent personnellement assez inquiétants. Je crois que nous devons demeurer vigilants à leur égard. Et il ne s'agirait pas pour nous de nous mettre la tête dans le sable, d'ignorer en récitant en quelque sorte dans notre langue de bois quelques bonnes paroles rassurantes, de nous dissimuler l'existence de véritables différences entre les églises évangéliques, mais aussi des choses qui nous sont communes. Il faut que nous pratiquions un véritable réalisme biblique. Et je voudrais cet après-midi faire apparaître à la fois l'importance du patrimoine commun et les différences, non pas seulement dans leur formulation stricte, mais selon leurs racines et leurs ramifications, selon même le climat spirituel et intellectuel et pratique auquel ces différences correspondent. Il s'agit d'ecclésiologie. Mon titre dans le programme a pu vous laisser penser que je traiterai des tendances communes et des divergences à tous égards, sur tous les sujets. Non, j'ai compris pour ma part, et je l'avais demandé très précisément aux organisateurs, j'ai compris pour ma part qu'il s'agissait, pour cet exposé de cet après-midi, encore d'ecclésiologie. C'est en ecclésiologie que nous devons essayer de voir quelles sont les tendances communes entre évangéliques et ce qui aussi correspond à des divergences. Ecclésiologie commune. Il n'y a pas seulement pour marquer les évangéliques un type théologique bien défini, cohérent, et que l'on peut repérer. J'ai essayé d'en tracer les traits principaux dans un article pour la revue catholique Unité des chrétiens, que plusieurs d'entre vous, sans doute, vous avez pu lire. Je ne reviens pas là-dessus. Il n'y a pas seulement donc une théologie d'ensemble qui est typiquement évangélique, mais aussi une ecclésiologie commune. Et de cela, je crois que nous ne sommes pas toujours aussi persuadés que nous devrions l'être. Souvent, les évangéliques ne pensent qu'à leurs différences lorsqu'il est question de la notion de l'Église, de la compréhension des textes bibliques qui se rapportent à l'Église. Mais il en va de ces évangéliques comme souvent des frères et sœurs dans une même famille. Et ils ne pensent qu'à leurs différences entre eux. Ils s'imaginent ne pas se ressembler du tout. Mais les gens du dehors, dès qu'ils les voient, trouvent un air de famille. En fait, en ecclésiologie également, les évangéliques ont beaucoup en commun. S'ils ne s'en rendent pas compte, bon, c'est un effet de cette proximité même, comme à l'intérieur des familles, selon l'image, la comparaison que je viens de faire. Mais c'est aussi parce que les œuvres interévangéliques qui correspondent à une bonne part de la vitalité de notre monde évangélique, ces œuvres interévangéliques se sont constituées sur la base d'un accord tacite ou explicite, un accord selon lequel on ne discuterait pas d'ecclésiologie. Les évangéliques, au XIXe siècle, se sont rapprochés les uns des autres et se sont mis à faire des œuvres ensemble en se disant, bon, nous avons des différences sur l'Église, n'en parlons pas. À cause de cette convention, qui a opéré pour ce qu'on appelle alors les conventions, justement, dans un autre sens, et pour des organisations de type permanent, comme les mouvements d'évangélisation d'étudiants ou de non-étudiants, certaines sociétés missionnaires, à cause de cette convention, les évangéliques ont parfois l'impression fausse que du côté de l'ecclésiologie, il n'y a que ce qui les diviserait, et donc il ne faut pas parler lorsqu'on travaille ensemble. Mais ils ne se rendent pas compte que le fait même d'accepter cette convention, de reléguer les différences ecclésiologiques à un rang second, qui n'empêche pas la collaboration, mais c'est déjà une thèse commune qu'ils ont en ecclésiologie. Jamais des catholiques, jamais des gens très haute église n'accepteraient de relativiser de cette façon les différences ecclésiologiques. Il y a déjà quelque chose de commun lorsque cette convention est admise. Mais bien sûr, il faut entrer dans un peu plus de détails. Et je crois que les points communs entre les divers évangéliques en matière d'ecclésiologie pourraient se résumer de la manière suivante. Il y a tout d'abord une attitude très réservée et critique à l'égard des prétentions institutionnelles. Les évangéliques, quelle que soit leur étiquette, tiennent en lisière tout ce qui pourrait glorifier l'Église, l'Église visible, l'Église qui, dans les autres secteurs de la chrétienté, se pare de titres d'autorité. Tous les évangéliques se montrent réticents face aux prétentions de type catholique, ou précisément haute église, comme on dit. C'est un effet de la réforme qui a battu en brèche les prétentions de l'Église catholique, comme nous le savons bien, et c'est un effet aussi, je crois que cela nous en sommes peut-être moins conscients, des réveils du XVIIIe siècle, en gros, XVIIIe et XIXe, qui ont joué un très grand rôle historiquement pour le façonnement de l'identité évangélique. Le mouvement évangélique dont nous héritons s'est vraiment constitué avec ses traits caractéristiques au XVIIIe siècle, avec les réveils dits évangéliques, justement. Or, les réveils ont détruit quelque chose que même la réforme n'avait qu'entamé, à savoir la confiance de nombreux individus en l'Église comme institution de salut, comme lieu où la grâce opère, de telle sorte que, qu'en se soumettant à l'Église, on est à peu près sûr que bon, il n'y a pas trop de danger, qu'on est paré pour l'éternité. Cette confiance en l'Église institution est demeurée assez ferme dans les grandes églises issues de la Réforme, mais la piété des réveils a remis cela en cause. Le théologien qui nous a le plus vivement attaqué avec habileté, avec une certaine perspicacité, limitée, mais indéniable malgré tout, qui nous a le plus attaqué ces dernières années, James Barr, B.A.2R, maintenant professeur à Oxford, présente une sorte de synthèse de ce que signifie l'identité évangélique. Pour lui, il dit fondamentaliste, parce que évangélique, c'est trop beau, comme épithète à ses yeux, en partant de l'opposition entre les chrétiens de nom et les chrétiens authentiques. Pour montrer la cohésion du système évangélique, il dit bien tout part de là, au fond. Les évangéliques sont ceux qui font une division entre chrétiens. Il y a les chrétiens de nom, dans les grandes églises, etc. Et puis, il y a les vrais chrétiens nés de nouveau. Je crois qu'on peut contester quand même l'importance que donne James Barr à cette distinction, et que la théologie évangélique s'appuie sur quelque chose de beaucoup plus large, plus fondamental encore. Mais il reste qu'en lisant son chapitre, je me suis dit, c'est pas si faux quand même. C'est bien vrai qu'à partir de cette distinction, qui fait vraiment différence entre les évangéliques d'un côté et les chrétiens de la grande chrétienté, à partir de cette différence, on retrouve logiquement la plupart des points caractéristiques qui font le profil de l'évangélique. Et ça, ça vient des réveils. La prédication des réveils, c'est il ne suffit pas d'être baptisé, enregistré sur les registres de l'Église, d'être membre des Églises. Vous pouvez n'être là que des membres morts. Vous êtes perdu si vous n'êtes que membre d'Église. Il vous faut une expérience personnelle de rencontre avec Jésus-Christ, de naissance d'en haut, etc. Donc, héritiers de la réforme et des réveils, les évangéliques récusent toute glorification de l'Église comme institution. On peut détailler en relevant le thème de l'Église invisible. C'est un thème critique qui apparaît à la réforme, mais qui persiste dans toute la tradition évangélique. Dire l'Église est invisible, c'est dire ce qu'on voit n'est quand même pas, au sens le plus fort et le plus strict du terme, l'Église telle que Dieu la voit. C'est émettre une sorte de critique générale, d'emblée, de ce qui se présente comme Église empiriquement à tous les regards, que de dire l'Église véritable, essentielle, est invisible, comme Luther le premier a osé le proclamer. Il y a aussi le thème qui apparaît à la réforme de la fausse Église, de l'antithèse de la vraie et de la fausse Église. Ce thème de la fausse Église, de nouveau, vous n'imagineriez pas qu'il surgisse au sein du catholicisme. Je vous fais remarquer qu'il est d'ailleurs ambigu, parce qu'on peut comprendre fausse Église de deux façons. On peut comprendre l'Église, oui, l'Église, mais faussée, l'Église défigurée. Ou on peut comprendre une institution qui se dit faussement Église, qui n'est pas Église du tout. En fait, vous trouvez ces deux compréhensions de l'expression fausse Église dans la tradition évangélique en général. Ça fait partie des divergences dont nous devons parler en seconde partie. Mais en tout cas, la présence du thème marque cette réticence devant toute exaltation qui paraîtrait indue aux évangéliques de l'Église dans sa visibilité. Il y a le rejet du sacramentalisme, c'est-à-dire, parce que c'est le sens précis que je donne au terme, de toute compréhension du baptême et de la scène qui leur assigne un rôle causatif quant à la grâce. Le sacramentalisme, tendance catholicisante en matière de théologie des sacrements, considère que les sacrements sont des causes instrumentales de la grâce, qu'ils ne la signifient pas seulement, ne sont pas seulement comme une prédication visible, mais qu'en outre, ils la communiquent effectivement. L'image des canaux est assez souvent employée dans la tradition catholique à cet égard. Cette théorie causative des sacrements, ou sacramentalisme, je crois qu'on peut dire que pratiquement tous les évangéliques s'y opposent selon l'un des élans principaux de leur foi évangélique. Et de nouveau, James Barr le note dans son livre, donc c'est le livre Fondamentalisme que je cite. Il dit, c'est sa manière de le dire, il dit que tous les évangéliques, même s'ils sont anglicans ou réformés, tendent au fond à une position baptiste. Parce qu'à son avis, ce sont les baptistes qui poussent jusqu'au bout la tendance anti-sacramentaliste, qui refuse toute puissance causative avec le plus de cohérence au sacrement. Je pense que des réformés ou des anglicans pourraient répliquer en disant qu'il s'agit alors d'un excès de logique et que l'écriture enseigne autrement. Donc ne donnons pas à James Barr et à cette formule que je cite plus de poids qu'elle n'en mérite. Mais je crois qu'il a bien noté en tout cas que les évangéliques, très très largement, dans la diversité même de leur dénomination, sont réticents à l'égard de la théologie causative des sacrements. Alors je reconnais, je le dis dès maintenant, qu'il y a ambiguïté du côté des luthériens. Les luthériens sont très attachés, à certains égards, à un rôle causatif des sacrements. Mais en même temps, ce rôle causatif des sacrements est lié pour eux à l'exercice de la foi, et les sacrements y apparaissent comme tellement unis à la parole de Dieu que c'est l'efficacité de la parole, en quelque sorte matérialisée. Ce qui veut dire que leur position n'est pas simplement équivalente à celle des tendances catholicisantes. D'autre part, je signale qu'il existe, surtout dans les marges du mouvement baptiste, certaines tendances à la resacramentalisation du baptême en particulier. Je ne pense pas que cela démente foncièrement la thèse que je vous présente, à savoir que les évangéliques globalement sont hostiles au sacramentalisme. En fait, si j'ai bien observé, cette tendance sacramentaliste nouvelle chez les baptistes, surtout en Grande-Bretagne, est liée à un abandon de la ligne évangélique. Les théologiens baptistes de l'Union baptiste de Grande-Bretagne et d'Irlande, au mois de mai de l'an dernier, j'ai passé un peu plus de 15 jours à Londres pour lire un certain nombre des productions de ces hommes. Ces théologiens donc de l'Union baptiste qui ont écrit ces 20 ou 30 dernières années, dans le sens d'un sacramentalisme assez lourd, assez appuyé, l'ont fait sous l'influence de ce qui s'écrit couramment dans la communauté écuménique, sous l'influence des exégètes non-baptistes, en fait, qui dominent le champ des études néo-testamentaires. En fait, certains d'entre eux sont très nettement des libéraux. Je pense par exemple à un homme comme Neville Clark, qui est un théologien fort distingué en Grande-Bretagne, qui a écrit un livre sur la manière d'aborder la théologie des sacrements. C'est un point de vue tout à fait critique, au sens de la critique négative que les évangéliques n'acceptent pas. C'est un tel point de vue qu'il a adopté. Et je pense qu'on pourrait dire à peu près la même chose de la plupart des ténors de ce mouvement. Un homme se situerait à la lisière, ce serait un théologien de grande classe, un théologien du Nouveau Testament, George Bisley Murray. George Bisley Murray, qui a été longtemps le principal du Spurgeon's College à Londres, admet un élément causatif important dans le baptême des croyants, mais qui est censé conférer l'esprit. Je crois qu'on doit dire que si M. Bisley Murray est resté très proche des positions évangéliques, il ne les a quand même pas maintenues en toute rigueur. En France, je ne connaîtrai qu'un seul auteur qui ait fait quelques pas dans cette direction. Pas du tout alors, lui, par influence libérale quelconque, au contraire. Il s'agit de M. Gabriel Milon, qui est décédé depuis peu, comme vous le savez, et qui, après tout un itinéraire, a été comme un docteur important dans l'association des églises baptistes. M. Milon, je crois personnellement, à cause de l'empreinte de son catholicisme de jeunesse, a maintenu un élément de sacramentalisme dans sa conception du baptême, mais il ne me paraît pas très représentatif à cet égard. De façon générale, donc, je crois que la thèse continue de valoir. Les évangéliques sont profondément antisacramentalistes, et cela s'allie à leur hostilité à toute majoration du rôle et de l'autorité de l'Église visible. Je signale, alors, cette fois, non pas comme un exemple de personne qui marginalement irait dans un autre sens, mais au contraire, à l'appui de ce que je vous dis, que je ne trouve personnellement aucun ouvrage qui me réjouisse le plus sur le sens de la Sainte Cène, qui aille le mieux dans le sens du combat que je crois mener comme théologien évangélique sur le rôle des sacrements, que le livre de l'anglican Alan Stibbs. Monsieur Stibbs, qui était professeur dans un collège anglican évangélique près de Londres, a écrit sur la Sainte Cène un ouvrage qui n'est pas traduit en français, mais que je trouve un véritable bijou théologique et qui me réjouit pleinement. Un anglican écrivant sur les sacrements, voilà ce qu'un baptiste comme moi peut lire avec délectation. Associé encore, toujours à cette même caractéristique commune des évangéliques, une résistance très nette au cléricalisme, au moins en théorie. Le thème du sacerdoce universel, vous le savez, a été un thème très souvent mis en avant dans la tradition évangélique. Bien sûr, cela remonte aussi à la Réforme, et on rencontre des degrés divers d'insistance. C'est la tradition, je pense, des assemblées de frères qui a mis le plus l'accent sur le rejet de tout cléricalisme, mais c'est aussi une tendance assez générale. Les évangéliques ont grand souci de ne faire des ministères officiels, quand ils en reconnaissent, que des fonctions dans la diversité du corps, des fonctions qui n'impliquent aucune différence radicale de statut entre les pasteurs, les anciens, et puis les autres membres de l'Église, des fonctions qui sont comme l'envers des charismes distribués par le Seigneur, par l'Esprit. Cependant, j'aborde là la seconde caractéristique commune aux évangéliques, le thème de l'Église demeure important. Les évangéliques ne méprisent pas, mais prisent au contraire très fort l'Église et l'Église dans sa manifestation visible. Ils exaltent la vie communautaire. Ils font grand cas de la métaphore paulinienne du corps du Christ, qui souligne l'importance de l'Église. On aurait pu penser, n'est-ce pas, que dans leur dans la logique du premier caractère que j'ai relevé, alors ils glissent vers un individualisme, vers l'attitude de ces chrétiens sans Église, comme il y en a eu aussi. Les évangéliques prennent garde de manière très consciente et délibérée au danger de cet individualisme d'isolation ou d'isolement. Ils refusent très très clairement le christianisme privé, non communautaire, qui peut parfois en tenter certains. C'est un des traits qui ressort avec le plus de force, de relief du livre de M. Kuhn, que vous êtes tous censés avoir lu, « Pourquoi l'Église ?» M. Kuhn fait un plaidoyer très vigoureux en faveur de l'importance de l'Église. Il a cette très belle image, n'est-ce pas, de l'arbre qui, s'il est tout seul au milieu d'un pré, pousse tout tordu parce que les vents le malmènent, mais qui pousse bien droit comme il faut s'il est dans la forêt avec tous les autres. C'est une belle image en effet. Je dirais même que certaines des formules de M. Kuhn vont plus loin que je n'accepterai d'aller moi-même, surtout à propos de la métaphore du corps du Christ. Je vous avoue, je le dis au passage, cela ne doit pas jeter la moindre petite ombre sur mon amitié avec M. Kuhn, que lorsqu'il dit que l'Église est le complément indispensable du Christ, en se fondant sur les derniers versets du premier chapitre aux Éphésiens, je pense qu'il va au-delà de ce que le Nouveau Testament autorise. Ces versets de la fin d'Éphésiens 1 sont interprétés de façon très diverse. D'ailleurs, en pure grammaire grecque, on peut même comprendre que la plénitude de celui qui remplit tout en tous est en opposition au Christ plutôt qu'à l'Église. C'est une possibilité que certains ont choisie. De toute façon, le terme peut se comprendre de façon très diverse. Et présenter l'Église comme indispensable au Christ, avec des fonctions analogues aux siennes, comme il dit ailleurs, pour moi, cela semblerait donner des gages dangereusement à la conception catholicisante de l'Église. Et je pense que la plénitude de Jésus-Christ est telle que c'est par grâce condescendante qu'il veut bien nous utiliser et nous associer à lui, mais que parler d'une sorte de besoin qu'il aurait de nous, c'est là aller bien plus loin que ce que le Nouveau Testament nous autorise à dire. Nous sommes des serviteurs inutiles, inutiles même pour compléter le Christ à qui appartient toute gloire en plénitude. Voilà ce que je dirais. Mais les formules de M. Kuhn, qui est un auteur très représentatif et très écouté, et qui mérite en effet de l'être, montrent bien ce que je vous dis, à savoir que les évangéliques ne déprécient nullement l'Église, au contraire, qu'ils ont grand souci de montrer qu'elle joue un rôle et que le chrétien doit y trouver sa place. En partie, on pourrait expliquer cette insistance par des raisons pragmatiques. On pourrait dire, à cause de la tendance critique dont j'ai parlé d'abord, des individus facilement dans les églises évangéliques se comportent en francs-tireurs, des groupuscules secrets un peu contre les églises, et les responsables des églises, percevant les dégâts, alors se mettent à prêcher l'importance malgré tout de l'église. On pourrait expliquer par certaines expériences amères que les responsables font parfois ce deuxième grand trait de l'ecclésiologie des évangéliques. Mais je crois quand même que ce ne serait pas une explication suffisante, qu'il y a des racines beaucoup plus profondes à ce maintien du thème de l'importance de l'Église chez les évangéliques. J'en vois deux au moins, mais je ne dis pas du tout que ma liste soit complète. Il y a le sens de l'objectivité qui importe tant à la théologie évangélique. Les évangéliques sont les hommes qui se réfèrent à une autorité délivrée une fois pour toutes, la foi transmise au saint une fois pour toutes. Ils ont grand souci de dire tout n'est pas livré au mouvement de la subjectivité des individus. Il faut bien sûr qu'ils répondent subjectivement, mais à une parole qui est la vérité objective et qui les atteint d'abord. D'abord, la révélation, indépendante des sentiments humains, d'abord, l'œuvre de Jésus-Christ, tout accomplie, avant même le moindre mouvement de foi dans notre cœur. C'est un grand thème de la théologie évangélique, cet accent qu'on peut appeler l'accent sur l'objectivité. Je crois qu'on peut y rattacher le sens que l'Église doit compter. Le subjectivisme entraîne l'individualisme. Chacun, selon ses sentiments, se met à se bâtir son propre style de piété. C'est la dispersion. Mais parce que tout vient de l'unique événement de notre salut et de la révélation qui lui est associée, nous savons bien, évangéliques, que nous ne sommes pas livrés chacun à soi-même, mais que le troupeau que conduit le souverain berger a maintenant rassemblé ceux qui auparavant suivaient chacun sa propre voie et s'égaraient si tristement. Donc il y a cette racine, je crois, cette racine du sens de l'objectivité qui appartient à la théologie évangélique. L'autre racine, ce serait ce qu'on pourrait appeler le pessimisme de la théologie évangélique. En fait, c'est du réalisme, mais j'emploie le terme pessimisme pour me faire mieux comprendre. Les évangéliques se distinguent des autres parce qu'ils reconnaissent l'incapacité de l'homme à faire son salut, la profondeur de l'imprégnation de son être par le péché. C'est un trait très caractéristique de la Réforme qui a attaqué le semi-pélagianisme du Moyen-Âge. Et c'est un trait qui fait contraste du côté évangélique avec l'optimisme superficiel des libéraux, je pense en particulier aux libéraux du 19e et du début du 20e siècle. Les évangéliques s'oppose à cette illusion que l'homme finalement aurait en lui une telle révélation de Dieu naturellement que, en suivant la voie de sa conscience, en exploitant les virtualités de son sentiment de Dieu, alors il pourrait finalement connaître Dieu. Les évangéliques sont très conscients de la perdition de l'homme sans la révélation spéciale, cette révélation objective dont je parlais, et de nouveau, cela, je dirais, les ramène à l'Église. Le mysticisme ou le moralisme de ceux qui croient la nature de l'homme quand même pratiquement quand même capable de le conduire jusqu'à Dieu aboutit à une réduction du rôle de l'Église. Chacun alors va adorer Dieu à sa manière, selon les sentiments de son cœur. Mais lorsqu'on se rend compte de la gravité de l'esclavage du péché, alors on se rend compte aussi que l'individu doit écouter la parole de Dieu, là où Dieu en a confié la prédication, dans l'Église. Troisième et dernière caractéristique principale, parmi les tendances communes que je crois relever, tous les évangéliques sont sensibles, même si c'est à des degrés divers, à la différence entre l'Église et le monde. Il y a, non sans lien avec ce pessimisme, ce réalisme quant au péché que je viens d'évoquer, il y a conscience très nette de la différence entre ceux du dedans et ceux du dehors, pour reprendre les expressions de l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 5. L'Église ne peut pas se confondre pour les évangéliques avec une fonction de la société globale. Même dans les grandes églises, il y a le sens, me semble-t-il, de cette différence, et on ne s'est pas assez rendu compte des tensions extrêmes qui ont rendu parfois pénibles les rapports de Calvin à Genève avec les autorités politiques de la ville. Les catholiques en particulier ont présenté Calvin comme une sorte de dictateur de Genève, détenant à la fois le pouvoir politique sur la ville et le pouvoir religieux, mais ce n'est pas du tout la réalité historique en ce qui concerne ce temps de Genève pour Calvin. Je crois qu'on peut dire que tous les évangéliques sont nettement conscients de cette dualité et en même temps de la priorité de l'évangélisation comme mission de l'Église. L'Église n'est pas le monde, l'Église a une mission de pénétration du monde. Elle doit y porter l'Évangile et permettre à ceux qui sont du monde, non pas de sortir du monde, mais de se dégager du système mondain pour adhérer à l'ensemble nouveau que crée la parole du Christ. L'évangélisation, c'est certainement de nouveau un trait caractéristique du discours évangélique. C'est pas pour rien que les grandes manifestations d'unité évangélique de ces dernières décennies ont été des congrès sur l'évangélisation. Pas du tout surprenant, commencer par celui de Berlin en 66, celui d'Amsterdam, celui de Lausanne en 74, les grands rassemblements aussi plus proches, Mission 80 et les autres millésimes que je risque de mélanger. C'est tout à fait significatif. Et je dirais que c'est l'excuse que l'on peut trouver aux journalistes français lorsque dans la presse, ils confondent allègrement évangélique et évangéliste. Vous savez qu'ils vous appellent souvent soit l'un soit l'autre. En un sens, ils n'ont pas tellement tort. Les évangéliques se veulent des évangélistes. En même temps, je crois pouvoir signaler la présence d'un certain malaise qui n'est pas très, très ouvertement exprimé, mais qui prend diverses formes à ce propos même. Je crois noter, au moins chez certains évangéliques, une certaine réaction contre, en tout cas ça leur paraît ainsi, un certain légalisme de l'évangélisation, contre la tendance à culpabiliser systématiquement les membres de l'Église à propos de leur devoir d'évangéliser, de telle sorte que l'évangélisation devient comme une sorte de tâche à laquelle on est contraint, que l'on accomplit sans naturel. Je crois qu'il y a une réaction à ce sujet, mais sans solution entière. Il y a aussi des réactions contre la mondanité pragmatique de certains dans l'évangélisation. J'emploie une formule assez abstraite. Je veux dire par là que certains, parce que ça marche, c'est ce que le mot pragmatique évoque, semblent prêts à adopter n'importe quelle technique pour évangéliser. Et d'autres disent, mais finalement, on copie le monde, on fait exactement comme le monde. Est-ce que c'est vraiment chrétien ? C'est surtout à propos de certains styles de musique que la question se pose et que des débats s'instaurent. Mais, vous voyez, il y a un malaise. Hein. Je crois qu'on ne peut pas nier qu'à propos des modes d'évangélisation, certains débats qui, à ma connaissance, n'étaient pas ouverts il y a 20 ans, certains débats deviennent aujourd'hui assez âpres même, tout en étant un peu étouffés, un peu. C'est un feu qui couve. Il y a le problème d'une trop bonne adaptation à la société de consommation. On peut se demander si certaines de nos églises ne deviennent pas comme des sortes de supermarchés ou de cafétérias spirituelles. On offre aux clients des services dont on espère qu'ils les appâteront. Alors l'église se conçoit comme une sorte de restaurant spirituel. Est-ce que c'est vraiment ça l'église ? Je crois qu'il y a lieu de s'interroger. Mais il y a aussi une forme juste antithétique qui, opposée à la dernière, il ne me semble pas non plus correspondre parfaitement au Nouveau Testament et qui suscite malaise. C'est la forme de l'élitisme du petit groupe qui constitue un nid douillet de gens qui cultivent une même spiritualité, parfois très belle ensemble, mais qui n'ont guère de communication avec le dehors. Une communauté où l'on partage tout, très intensément. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de nombrilisme à ce moment-là ? Il me semble qu'on peut évoquer donc ces diverses sortes de malaise. Alors j'ai attendu jusqu'à maintenant pour définir les frontières exactes de ce mouvement évangélique dont j'ai décrit les caractéristiques communes. Je me suis dit que si je commençais par là, je risquerais de susciter peut-être trop de réactions et puis ma description d'ensemble n'aurait pas été aussi bien reçue peut-être. J'ai l'impression que vous avez bien reçu. Voici les frontières de ce mouvement évangélique que j'ai prises en compte pour en décrire les caractères communs. Je pense que d'un côté, c'est le luthéranisme confessionnel en particulier, que je verrai à la limite. J'ai dit un mot précisément de la théologie des sacrements chez les luthériens. Je crois qu'il y a certains luthériens qui ne se sentent pas tellement partie prenante du mouvement évangélique. Les baptistes, vous savez, pour les luthériens, pour certains d'entre eux au moins, c'est vraiment dur à avaler. Ils continuent de voir dans le refus du baptême des enfants quelque chose de très très grave. Je crois en avoir rencontré. Et lorsqu'on parle avec eux des sacrements, par exemple, on voit ressurgir quelque chose de l'humeur des théologiens du XVIe siècle. Mais en même temps, il me semble impossible d'exclure ces luthériens du mouvement évangélique, au moins mondialement considéré. Dans le comité de Lausanne, duquel j'ai fait partie, qui était formé à la suite du congrès de Lausanne, il y avait des luthériens évangéliques, un évêque norvégien, l'évêque Utnem, nous étions extrêmement proches, pas de doute, c'est le mouvement évangélique. Je connais aussi bien un théologien évangélique, évidemment, assez inhabituel dans son style de comportement parmi les luthériens, mais enfin, il est luthérien quand même, John Warwick Montgomery. Je crois que plusieurs d'entre vous, vous connaissez aussi ce théologien. Ah, c'est un évangélique, à coup sûr. Donc, impossible non plus de les exclure. Je les mettrai donc, si vous voulez, à la limite. Nos chers amis darbistes, ils souhaitent peut-être eux-mêmes être au-delà de la limite. Vous savez qu'on raconte toujours ces histoires
sur le paradis, quelqu'un qui arrive au ciel et puis à qui Saint-Pierre montre les différents groupes de chrétiens évangéliques. Et puis un grand rideau. Hein. Qui sont les gens qui sont derrière ce rideau? Ce sont nos frères d'arbistes. Ils seraient trop tristes de voir que les autres y sont aussi. Alors qu'il y a un grand rideau. Bon, on peut raconter l'histoire avec d'autres groupes d'ailleurs aussi. Mais enfin, je pense que ça marche assez bien pour nos frères d'arbistes qui se sont définis comme frères séparés à partir surtout de la doctrine de l'Église en ruine qu'a conçue ce puissant génie qui a été John Nelson Darby, un très très grand bonhomme, avec une doctrine qui n'avait jamais été imaginée avant lui, selon laquelle l'Église du Nouveau Testament, par apostasie, a cessé d'être, elle est en ruine. Ce n'est plus l'Église qui avait des ministères institués, des charges d'officiels, d'anciens et de diacres, ce n'est plus l'Église maintenant, c'est seulement l'Assemblée à distinguer de l'Église. L'Assemblée qui se réunit en petits groupes en attendant le retour du Seigneur qui est très très imminent, avec des ministères, sans doute des dons qui s'y manifestent, mais plus ces charges officielles d'anciens et de diacres. C'est cette doctrine de l'Église en ruine qui a, je crois, imprimé sa marque sur les frères d'arbistes. Mais même dans leur cas, j'hésite à accepter tout à fait qu'ils soient au-delà de la limite. Je pense qu'il y a manifestement des points communs avec les autres évangéliques. Et en ce qui concerne les frères larges, qui se sont séparés des frères étroits dès le temps de Darby lui-même, vous savez qu'il y a eu des controverses dès le premier essor de ce mouvement des frères. Alors là, bien sûr, ce n'est pas douteux, même les plus étroits des larges font partie de cet ensemble évangélique dont je vous parle, dont je présente les tendances communes. Puis si on continue encore, alors, j'inclus à coup sûr les églises pentecôtistes dans l'ensemble évangélique. Il me semble que ce n'est pas quelque chose qu'on puisse discuter, en rappelant cependant qu'il y a certains groupes issus du pentecôtisme qui sont devenus carrément des sectes, et je pense que les branhamistes ne peuvent pas être considérés du tout comme des chrétiens évangéliques. Mais si je pense tout spécialement aux assemblées de Dieu, à des groupes pentecôtistes responsables, d'une façon un peu semblable, là, il n'y a pas de doute, ils appartiennent à la famille évangélique. Je les inclus dans cet ensemble. Et le problème des adventistes, qui, le dernier problème que je mentionne, eux aussi, je les situerai tout à fait à la limite. Les adventistes, historiquement, procèdent du mouvement évangélique. Vous savez qu'ils sont issus, si j'ose dire, d'un croisement. Le croisement entre un mouvement d'attente du retour imminent du Seigneur, proprement adventiste, et puis le mouvement des baptistes du septième jour, c'était des baptistes. Et on ne peut pas nier qu'il y ait la filiation historique. Mais ce qui les distingue le plus des autres évangéliques, me semble-t-il, si on les admet dans le courant évangélique, et en particulier si on considère ceux qui, sur la justification par la foi, sont revenus, comme il y en a un certain nombre, beaucoup plus près des positions de la réforme que nous croyons bibliques. Si on considère cela, je pense que la différence principale tient au mode d'organisation. Il y a une discipline de fer, une organisation très efficace, ce qu'on ne peut pas dire en général des autres dénominations évangéliques. Nous avons, à l'occasion de la publication du numéro spécial sur l'adventisme dans la revue Ictus, nous avons eu l'occasion d'apprécier de voir par expérience directe à quel point cette organisation fonctionne dans l'adventisme français. C'est assez caractéristique. Je situerai donc, sans bien connaître moi-même ce mouvement, l'adventisme de nouveau à la frontière. Alors ces tendances communes déployées, je crois que ce serait vraiment le moment pour vous de prendre les quelques minutes promises par M. Sandels avant que j'aborde les points de divergence. Débats principaux à propos desquels se séparent les uns des autres ces évangéliques qui ont tant en commun comme nous venons de le voir. Alors j'ai trois grands grand débat à évoquer. Le débat que vous avez déjà abordé, si j'ai bien entendu, ce matin, confessant et professant. Le débat ordre ou spontanéité et le débat mission chrétienne et culture. Ce sont, me semble-t-il, les débats à propos desquels les évangéliques n'adoptent pas tous la même attitude. La première ligne de partage des eaux, cela est bien connu, c'est celle qui sépare les églises de confessants des églises de professants. On peut distinguer, bien sûr, église de confessants et église de multitude, mais je ne m'astreins pas à un traitement de l'église de multitude pour deux raisons. La première, c'est que dans notre pays au moins, il n'y a plus guère d'évangéliques dans des églises de multitude. Vous connaissez aussi la vieille plaisanterie, église de multitude, où est la multitude? Les conditions sociologiques sont telles que la tentation, si c'est une tentation de l'église de multitude, ne s'exerce plus sur grand monde. Et d'autre part, on peut plaider, comme l'avait fait le professeur Georges Serre de l'ancienne faculté de théologie protestante d'Aix-en-Provence, que l'intention de Calvin, par exemple, n'était pas du tout de construire une église de multitude, mais une église de confessants. Alors je restreins donc le débat, la grande alternative, à ces deux termes, église de confessants, église de professants. Si on s'en tient à l'étymologie, et même à un usage assez ordinaire des deux termes de confession et de profession, on pourrait avoir l'impression que les deux termes sont à peu près équivalents, et donc que les deux expressions recouvrent des positions très très proches l'une de l'autre. L'un des deux mots est défini en termes de l'autre dans le Petit Robert. Mais il y a cependant une petite nuance qui, je crois, fait la réelle différence dans l'usage ecclésiologique des deux termes. Pour le mot profession, et alors là, non pas pour le mot de confession, il y a un usage bien établi en français qui est le suivant. On appelait profession la formulation des vœux de quelqu'un qui entrait dans un ordre. On professe des vœux de religion. Il me semble qu'on peut dire que les professants mettent l'accent sur un engagement personnel de l'individu qui est comparable à l'engagement de celui qui entrait chez les bénédictines, chez les dominicains. La profession religieuse et pas seulement la confession de la foi. D'ailleurs, du point de vue de l'histoire des religions et de la sociologie religieuse, on a parfois fait des comparaisons entre les églises de professants et les ordres religieux au sein du catholicisme. Il y a des similitudes qui sont parfois assez intéressantes à observer. La différence se cristallise assez souvent autour de la pratique du baptême des nourrissons. Je préfère dire baptême des nourrissons que baptême des enfants, bien que je dise aussi couramment baptême des enfants. Vous savez que les baptistes baptisent d'assez jeunes enfants, en fait, quelques années, en fait. Je crois que ma propre grand-mère, qui était baptiste s'il en fut, Madame Arthur Blocher, née Madeleine Sayens, a été baptisée à l'âge de 6 ou 7 ans par Rubin Sayens, a été quand même l'un des propagateurs du baptisme en France. Des enfants, les baptistes ont accepté d'en baptiser. Le problème se pose à propos des nourrissons, ou des infantes, au sens étymologique du terme, au sens latin, qui est différent du sens de courant de notre mot enfant. Les infantes sont ceux qui ne peuvent pas parler, qui sont incapables donc de répondre pour eux-mêmes. Je crois qu'il est peut-être plus exact pour nous, bien que dans le langage courant, on reprenne la formule de tout le monde, de parler de baptême de nourrissons que de baptême des enfants. En tout cas, très souvent, l'opposition confessant-professant, les professants mettent en accent sur un engagement de la personne, tourne autour de la pratique du baptême des enfants. Mais il faut quand même reconnaître que ce n'est pas nécessairement le point en cause, qu'il y a certains professants qui pratiquent le baptême des enfants. Ils sont minoritaires, mais il en existe. Il en a existé dans les églises libres, par exemple, un certain nombre. Leur nombre s'est amenuisé et il n'y a plus beaucoup de pasteurs libristes aujourd'hui en France qui pratiquent le baptême des enfants, mais rien ne l'interdirait encore dans les règlements des églises libres. Et il y a certains méthodistes aussi, je pense pour la France, en Alsace, qui pratiquent le baptême des enfants tout en étant des professants. On pourrait exprimer la grande différence aussi en disant que pour les confessants, l'Église visible est d'abord la mère des fidèles. Une expression que Calvin a beaucoup employée. Une mère qui éduque plus qu'elle n'enfante. Contrairement à ce qu'on trouve dans la tradition catholique de la maternité spirituelle de l'Église. Mais une mère, d'abord. Alors que du côté professant, sur l'autre versant, l'Église n'est pratiquement pas conçue de cette façon, mais soit comme épouse, constituée de tous les membres, épouse de Jésus-Christ, soit même comme fille, si je puis dire, fille de la prédication, fille et fruit. C'est de cette façon aussi que l'on peut caractériser la différence. Celui qui dit Église, en pensant Église visible, parmi les confessants, pense à l'Église d'abord comme une institution qui a pour charge d'éduquer les fidèles, de leur transmettre la parole de Dieu. Et, en quelque sorte, à cette école, sont inscrits les croyants qui confessent la foi et leurs enfants. Du côté professant, l'Église est constituée par les croyants. Elle est le fruit de la prédication qui a éveillé la foi en eux, bien sûr, après coup, par les ministères qu'elle comprend en son sein. Elle enseigne les croyants, les croyants s'enseignent les uns les autres, selon la parole de Dieu. Mais l'Église, comme réalité, corps, est conçue comme plutôt l'effet de la prédication. Comment caractériser cette différence qui est la première que nous rencontrons dans le champ ecclésiologique? Je dirais d'abord qu'elle a des racines historiques qui m'apparaissent assez déterminantes. J'espère ne pas truquer les cartes, moi qui suis professant et baptiste en l'affaire, mais je confesse ne pas pouvoir imaginer que la théologie des églises de type luthérien et réformé, églises donc qui se veulent de confessants, lorsqu'il s'agit des évangéliques au moins, sans le poids de la sociologie au XVIe siècle, et ensuite le poids d'une tradition établie. Il me semble que je comprends si facilement que les réformateurs de la réforme dite magistérielle, de la réforme luthéro-calviniste au XVIe siècle, je comprends si facilement que ces réformateurs aient jugé impossible de réaliser l'Église de professants, qu'ils aient eu peur de la révolution sociale que cela aurait entraînée, qu'ils ont dit non, c'est pas possible. Il me semble que là, le facteur sociologique a pesé d'un poids très considérable. Et une fois qu'une tradition s'est fixée, vous savez, elle a la vie dure. Elle peut s'éroder peu à peu, mais elle demeure quand même souvent bien des siècles. On peut d'ailleurs observer à ce propos que l'attitude à l'égard du thème de la fausse Église est en cause. Les réformateurs qui n'ont pas voulu chambouler complètement la notion même de chrétienté ont été précisément les apôtres d'une réforme. L'Église a été faussée, il faut réformer cette Église, mais c'est toujours quand même l'Église. Et Luther tirait par exemple de la seconde épître aux Thessaloniciens, du chapitre 2, la conclusion que l'Église de Rome continuait d'être authentiquement Église, même faussée, le temple de Dieu. En effet, il est dit que l'Antichrist, l'homme de l'iniquité, s'assiera dans le temple de Dieu. Pour Luther, ça ne faisait pas un pli, l'Antichrist c'était le pape. Si l'Antichrist doit être dans le temple de Dieu, c'est donc que l'Église romaine est le temple de Dieu. Vous voyez quelle logique s'appliquait pour lui, même avec tout le combat qu'il a mené. Alors que la réforme professante, dès le XVIe siècle, a été restitutionniste, plus que strictement réformatrice. Il fallait revenir au modèle néo-testamentaire, restituer le visage authentique, selon les dispositions du Christ, de l'Église. Visage qui avait été trop profondément défiguré. Au chapitre des racines historiques, d'ailleurs, c'est la dernière remarque que je fais à ce propos, je signalerai que les tenants de l'ecclésiologie confessante, disons, estiment que sur les professants, c'est l'esprit moderne qui a pesé de son influence. L'idéal démocratique, né de la Renaissance, marqué par l'individualisme, qui n'est pas biblique à leurs yeux, c'est cet esprit moderne qui a conduit à l'idéologie des églises de professants. Vous voyez comment ils perçoivent les choses. Deuxième racine, non plus historique cette fois, mais herméneutique et scripturaire, le traitement de l'écriture n'est pas tout à fait le même. Bien sûr, vous avez des positions intermédiaires, mais en gros, il me semble qu'on peut dire que les professants s'en tiennent à une lecture beaucoup plus courte du texte biblique. C'est comme ça que c'est écrit dans le Nouveau Testament, bon, il n'y a pas à discuter. Alors que les tenants de l'ecclésiologie réformée en particulier, c'est celle que je connais le mieux, lisent l'écriture sous la conduite d'un schéma dogmatique qui couvre l'ensemble de l'écriture. Ils pensent que c'est une fonction légitime du tout que celle d'éclairer chaque partie, et donc en fonction d'un schéma qu'ils croient conforme à l'ensemble de l'écriture, ils estiment que la première lecture de tel ou tel texte du Nouveau Testament n'est pas la bonne. Il faut la corriger à la lumière de l'ensemble Ancien-Nouveau Testament. C'est le cas aussi très spécialement à propos du baptême. Ils reconnaîtront bien volontiers qu'aucun texte n'est explicite dans le Nouveau Testament à propos du baptême des nourrissons, mais ils diront l'analogie de l'Écriture avec la continuité entre le signe de l'Alliance sous l'ancienne dispensation et puis le signe de la nouvelle, donc entre circoncision et baptême, l'analogie de l'Écriture nous oblige à dire que tout normalement, le baptême devait être administré aux nourrissons comme la circoncision l'était avant Jésus-Christ. Leur lecture est une lecture que gouverne cette structure dogmatique. Mais quand je dis dogmatique, je ne veux pas dire qu'à leurs yeux, il y ait décrochage par rapport à la Bible. Il s'agit du tout biblique à leurs yeux. De la Bible dans son ensemble, dans son unité organique. Et cela implique une attitude à l'égard de l'Ancien Testament. De manière globale, on peut dire que l'ecclésiologie du premier versant, donc, que nous avons appelé Église de confessants, ou Église confessante d'ailleurs aussi, correspond à une minimisation des différences entre Ancien et Nouveau Testament. C'est une lecture qui considère que les deux testaments sont sur le même plan. Il y a quelques modifications dans les formes d'administration, mais c'est la même alliance de grâce qui se continue. Alors que, du côté professant, même si la théologie de l'alliance de grâce est maintenue, comme elle l'est par un certain nombre de baptistes, et comme par la position historiquement première dans le baptisme, les baptistes ont commencé calvinistes au milieu du XVIIe siècle, les baptistes ont une postérité historique. Même si donc il y a une théologie de l'Alliance de type baptiste, elle marque bien davantage la dénivellation entre le régime de l'Ancien Testament et celui du Nouveau, avec une relation type-antitype beaucoup plus différenciée. Ça, c'est une différence tout à fait nette dans le traitement du texte biblique. Et je pense, en troisième lieu, qu'il y a des racines encore plus profondes que la manière de rapporter la nature à la grâce et la grâce à la nature est assez souvent différente. Du côté des tenants de l'Église confessante, donc je pense essentiellement à des réformés évangéliques, on a très grand souci de marquer qu'il n'y a pas d'opposition entre la nature et la grâce, que le Dieu rédempteur est le Dieu de la création, et par conséquent que la famille, qui est l'unité créationnelle de Dieu, est tout naturellement prise en compte par le déploiement de la grâce, et qu'il serait tout à fait anormal que le Dieu qui nous a créés, lorsqu'il nous sauve, ne nous prenne pas selon les solidarités organiques qu'il a lui-même instituées de par sa création. Vous avez une très nette affirmation qui se joint bien sûr à l'expérience vive de l'unité familiale. Il y a tout un aspect sentimental qui se greffe là-dessus. Mais il y a un aspect théologique. Alors que du côté des églises de professants, on met l'accent au contraire sur la nouveauté de l'œuvre de la grâce qui coupe en quelque sorte à travers le fonctionnement de la nature. C'est une nouvelle création. Ce n'est pas simplement la restauration de l'ancienne. C'est la liberté de l'esprit qu'aucun lien de la chair ne peut prévenir en quelque sorte. Ça, c'est une différence qui, je crois, est assez profondément marquée. Je me rappelle avoir lu, sous la plume du théologien réformé Berkauer, des phrases qui, à mon avis, le rendaient très vulnérable à la riposte. J'en profite. Mais accusant formellement les anabaptistes, et il englobait les baptistes avec, de tomber sous l'emprise du motif non biblique nature-grâce, antithèse nature-grâce, parce qu'ils affirmaient avec force la nouvelle naissance. Naissance nouvelle, non selon la chair. Alors je dis que quand un théologien va jusque-là, il donne un magnifique bâton pour se faire battre. Parce que les textes de Jean 1 et Jean 3 sont tellement nets à ce propos qu'on peut tout de suite les lui opposer. Mais il est significatif qu'il était entraîné jusqu'à cette imprudence. Un théologien aussi prudent habituellement et habile que Leberkauer. C'est vraiment une différence profonde qui peut se joindre encore. Je vous explique tout ça pour que vous compreniez bien non seulement la psychologie, mais la spiritualité de ces frères réformés, par exemple. Il y a aussi l'impression que, à trop mettre l'accent sur l'engagement de l'individu, qui doit lui-même attester qu'il a rencontré le Seigneur, etc., on met en danger la souveraineté de la grâce de Dieu. On en vient à exalter ce qu'on appelle facilement part de l'homme, c'est déjà dangereux, au détriment du tout est grâce. Et je me rappelle avoir échangé quelques mots avec le docteur Barker, qui est bon théologien aussi, professeur de psychiatrie, et il vient pour des cours, vous le savez, régulièrement à la faculté de Vaux-sur-Seine, mais il est l'un des responsables d'une église anglicane évangélique à Bristol, et bon théologien, mais il apprécie dans son église anglicane, où la tradition est une tradition essentiellement réformée, calviniste, cette objectivité. Je ne suis pas dans l'église parce que je l'ai décidé, ce qui posait tout de suite une question, si je ne suis plus tout à fait sûr de devoir y être, etc. Je suis dans l'église parce que Dieu m'y a placé, petit enfant déjà. Ça donne un repos à celui qui manque peut-être un peu d'équilibre psychologique, une sorte de sécurité. Voyez comment il peut apprécier, lui, le psychiatre, justement de son point de vue, l'avantage du côté confessant par rapport au côté professant. Ça ne me convainc pas, personnellement. Je crois que les textes bibliques n'autorisent pas, au bout du compte, ce genre de considération. Mais il n'est pas mauvais de s'ouvrir à ces raisons de ceux, disons, qui ont un autre avis dans le champ évangélique, en reconnaissant bien ce que parfois les évangéliques ont de la peine à le faire, que c'est une position qui n'entame pas le fond du patrimoine commun qu'ont les évangéliques. Il y a parfois des évangéliques du type baptiste qui se scandalisent, mais Comment est-ce qu'il peut être un évangélique s'il baptise les petits-enfants ça veut dire qu'il croit que c'est le baptême qui sauve sans la foi. Pas du tout ça. Et c'est pas du tout ça pour nos frères réformés évangéliques. Vous saisissez, je pense, un peu mieux comment les eaux se partagent sur les deux versants. Deuxième débat, ordre ou spontanéité. En fait, un jeu de mots en anglais. On parle du couple order and ardor. L'ordre et l'ardeur, mais en français ça ne marche pas aussi bien. Comme une bipolarité, ordre et ardeur. Je me suis essayé à trouver un équivalent français, mais c'est quand même pas très bon. Hein. Décence et incandescence. Ceux qui ont plus le souci du bon ordre, de la dignité, de la, tout se fasse décemment, avec ordre, comme dit Paul à la fin d'un Corinthiens 14. Et puis, l'incandescence, la ferveur, l'ardeur. Incontestablement, on observe cette bipolarité dans le champ évangélique. On la retrouve ailleurs aussi, mais elle est spécialement déterminante parmi nous. Je crois qu'on peut dire, sans crainte de trop se tromper, que les luthériens, les anglicans, les réformés, les baptistes évangéliques, les baptistes traditionnellement, ont été attirés surtout par le premier pôle, celui de l'ordre. Alors il s'agit soit plutôt d'un ordre liturgique et traditionnel, chez les luthériens et chez les anglicans, en partie chez les réformés, on pourrait ajouter là l'ordre doctrinal, qui compte davantage, l'ordre des ministères établis. Je crois que c'est très fort, ces trois catégories. Et il s'agit davantage de l'ordre disciplinaire, de l'ordre de la constitution de l'Église dans la tradition baptiste. Les baptistes ont eu facilement un tour d'esprit juridique. Ils ont vu des textes, des articles, des procédures bien réglées. Beaucoup moins en France, bien sûr, que dans la patrie d'origine du baptisme, en Grande-Bretagne, que dans le monde anglo-saxon ensuite. Mais je pense quand même aussi, si on considère le baptisme dans ses origines historiques françaises. On est très sensible aux soucis de démocratie interne, mais tout cela doit être bien défini. Et quant à l'ordre du service, par exemple, on ne badine pas trop non plus. On souhaite que les choses se fassent avec beaucoup d'ordre. En revanche, on observe dans d'autres groupements une sorte d'allergie à ce qui est trop défini, soit quant aux confessions de foi, soit quant au ministère. Et il y a comme une glorification du spontané, de ce qui jaillit de soi. Facilement, on conçoit une antinomie entre la vie et puis tout ce qui peut être planifié, calculé, préparé, réglé à l'avance. Je ne crois pas pour ma part que cette antinomie, cette opposition, soit si bien basée sur l'écriture, mais ça c'est une autre affaire, je suis là pour décrire surtout aujourd'hui. Et de quel côté alors verrais-je cette tendance au spontanéisme évangélique? Les formes les plus aiguës, mais alors ça gagne quand même aussi vers le centre. Les formes les plus aiguës seraient de trois types à mes yeux. Vous avez la forme d'arbiste, associée à ce thème de l'église en ruine que j'ai présenté il y a quelques instants. Et sur ce point, les frères larges ont été assez fortement influencés. Il y a une évolution très nette de ces 20 dernières années, en particulier en Suisse romande et en Grande-Bretagne. Mais quand même, on ressent encore un peu cette méfiance à l'égard d'un texte qui serait voté, de ministères dont on craint qu'il fasse une séparation. À mes yeux, un des ressorts principaux de ce spontanéisme de type frère, disons, c'est la crainte de la confiscation par les spécialistes. Et c'est un motif qui mérite, en effet, qu'on l'apprécie. Il me semble que si les frères sont souvent réticents devant des textes trop élaborés et des ministères trop spécialisés avec préparation en faculté par exemple, c'est qu'ils ont peur qu'à ce moment-là on glisse vers le type d'église qu'on voit chez les réformés par exemple, où le pasteur est là qui fait tout, il tient tout entre les mains, il y a une confiscation par des simili-clercs, qui ne sont pas à proprement parler des clercs, qui représentent une négation du sacerdoce universel. Je crois qu'il y a une volonté, que tous aient vraiment possibilité de manifester leurs dons, d'intervenir dans la vie de l'Église. Je crois aussi, je dis les choses très très franchement, en espérant ne heurter personne, que c'est aussi l'occasion pour certaines personnalités qui aiment se mettre un peu en avant, d'en garder l'occasion. Et qu'on observe cette tendance qui est très humaine à rejeter le ministère de quelqu'un qui aurait fait des études pour ça, parce qu'on sait bien que s'il y avait quelqu'un comme ça, bien, on n'aurait plus la même autorité soi-même. S'il y a quelqu'un de beaucoup plus compétent, eh bien, oui, on est obligé de se taire, sur certains chapitres au moins, et on n'a pas envie de se taire. Bon, il y a un petit peu cela aussi, me semble-t-il, parfois. Mais, vous voyez, ça s'associe à cette crainte de la confiscation par les spécialistes. Chez les pentecôtistes, deuxième type, c'est assez différent à mes yeux. Chez les pentecôtistes, c'est le besoin que des choses se passent. Qu'en venant dans une réunion, on ne sache pas d'avance quel en sera tout le déroulement. Que des interventions libres de l'esprit puissent s'y manifester. Dans un livre sur les pentecôtistes, pas traduit en français, on parle en anglais d'une sorte de serendipité sacrée. Qu'est-ce que ça veut dire serendipité? J'ai cherché dans mon dictionnaire, le mot n'y est pas. En fait, c'est un souvenir littéraire. Il s'agit des aventures du prince de Serendip en Inde, à qui il arrive toujours le contraire de ce qui était attendu. Oui. Les choses tournent toujours juste à l'opposé ou de façon imprévue. Alors chez les pentecôtistes, il y a, me semble-t-il, comme un facteur vraiment important, cette attente de l'inattendu, avec la pensée que c'est la façon concrète de laisser l'esprit réellement libre. Autrement, on dira toujours que c'est l'esprit, mais en fait, ce sont les hommes qui auront tout planifié. Il y a aussi le fait de laisser la part non cérébrale de l'homme s'exprimer. Ça, c'est tout à fait typique dans le spontanéisme pentecôtiste. Le protestantisme est ultra-cérébral. Et il y a une confiscation, non pas tant par les spécialistes, que par les bourgeois et ceux qui ont reçu la formation scolaire ordinaire. Eux seuls savent parler comme il faut, alors sont ceux les seuls qui s'expriment dans l'Église. Les autres sont assis sur leur banc, puis c'est tout. Alors, dans le pentecôtisme, il y a une possibilité pour ceux qui n'ont pas eu ces privilèges, qui ont autre chose à exprimer, de l'exprimer à leur façon. Avec le corps, avec l'affectivité, et selon les traditions plus populaires. Voilà ce qui me semble correspondre au deuxième type de spontanéisme. Le troisième, il est beaucoup moins important numériquement, mais je pense quand même devoir le mentionner. C'est celui d'un courant qu'on pourrait appeler mystique. Mysticisant, qui se manifeste comme sur les marges de pas mal d'églises évangéliques. Le courant sparkiste, influencé par les écrits de Tom Austin Sparks, ou les écrits de Watchman Nee, qui est assez proche, ou l'influence d'un évangéliste comme Baxing. Vous avez là aussi une opposition très très forte entre la spontanéité qui est censée être conduite par l'esprit et puis tout ce qui est rigidement établi. Vous savez, il y a même une opposition à l'idée de liste de membres d'église. Ce n'est pas spirituel. Tout ce qui est codifié n'est pas spirituel. Parce qu'on pense antinomiquement, esprit et vie d'un côté, et puis ce qui est fixé, réglé de l'autre. Alors c'est pas la même tonalité que dans la tradition frère du tout. Pas la même tonalité que dans la tradition pentecôtiste du tout. c'est autre chose. Ça fait penser davantage à certains courants mystiques de la fin du Moyen-Âge, où le thème de la mortification du moi, du vide intérieur, hein, une sorte d'irrationalisme feutré, joue un rôle beaucoup plus considérable. La troisième grande diversité dans mon schéma, je l'évoque sous le titre de mission chrétienne et culture. À son propos, je ne réussis même pas à tout réduire à une polarité, une bipolarité, comme je l'ai fait pour les deux débats précédents. Il me semble qu'il y a éclatement, bien davantage. Il s'agit foncièrement de la mission de l'Église en plus de l'évangélisation, car c'est un point commun à tous les évangéliques, l'évangélisation est en bonne place, prioritaire, mais en plus de ça, quelle est la mission de l'Église dans le monde? Vous savez que le congrès de Lausanne en particulier a frappé grand nombre d'observateurs par l'insistance sur l'existence d'un autre aspect dans la mission de l'Église. Mais il y a des options très diverses à ce propos, et j'en vois au moins quatre. Alors en les mettant dans un ordre qui me paraît à peu près rationnel, mais enfin, c'est pas, on pourrait en concevoir d'autres. Je commence par le courant de la reconstruction chrétienne. C'est le nom que prend ce courant. Il y a une revue en Amérique qui a ce titre même. Et je sais qu'un homme comme M. Courtial, avec qui, vous le savez, je collabore depuis longtemps pour la revue Ictus, justement, aime beaucoup cette expression qu'il la reprend à son compte. Il y a aussi, comme mot caractéristique, le mot de théonomie, l'exaltation de la loi de Dieu. Théos, Dieu, nomie de nomos, la loi, contre l'autonomie de l'homme humaniste, l'autonomie prétendue, la théonomie, c'est la loi de Dieu qui doit tout régler. Ceux qui conçoivent la mission de l'Église sous les étendards de la reconstruction chrétienne et de la théonomie sont dominés par la pensée que le Christ doit régner en tous les domaines de la vie, y compris donc les domaines de la politique, de la vie sociale, de l'art, ce qui constitue la culture. Il ne suffit pas d'arracher des individus à la perdition par la prédication de l'Évangile, cela est nécessaire, mais il ne suffit pas, il faut revendiquer pour le Christ, Seigneur du monde, tous les territoires, et y promouvoir la loi que Dieu a établie pour tous les divers domaines de l'existence humaine. Théonomie partout, y compris en politique. Aucun secteur n'est neutre. Voilà l'accent. Alors il y a diversité à l'intérieur même de ce premier courant. Il y a un courant qui est plus directement lié à la philosophie d'Amsterdam, la philosophie calviniste d'Amsterdam, où l'accent tombe sur une grande vision du monde, assez compliquée, que le philosophe d'Hoyeveerde a bâti. On s'éloigne un peu de l'étude biblique directe. On essaye, sous la domination du motif fondamental de la parole de Dieu, motif création, chute, rédemption, on essaye de voir quelles sont les conséquences en politique, par exemple. Et il y a un parti anti-révolutionnaire, parti chrétien, des syndicats chrétiens qui se développent selon cette ligne. Et une deuxième ligne, qui est celle représentée par Rush Dooney aux États-Unis, qui est beaucoup plus liée à l'Ancien Testament. Il dit, attention, ces gens d'Amsterdam et puis de Toronto, parce que la grande filiale est à Toronto, ils prétendent tout faire régir par la parole de Dieu, seulement ils ne consultent pas tellement leur Bible, en fait. Dieu nous a montré quelle est sa loi pour la politique, pour la culture, dans l'Ancien Testament. Il a là donné, en quelque sorte, un exemple législatif et instructif, fondamental. Alors nous devons essayer de reprendre cela. Et il y a un accent très très fort sur le modèle de l'Ancien Testament, à transposer bien sûr, mais parfois il semble que la transposition soit relativement mineure dans ce courant. Puis il y a un troisième courant qui se combine au précédent, en fait, qu'on pourrait appeler une sorte d'intégrisme protestant. Je ne pense pas qu'on puisse appeler tout le courant intégriste, mais je suis assez frappé par certaines choses que j'ai lues, des choses de haute qualité d'ailleurs, de M. Jean-Marc Berthoud à Lausanne, avec son association des Vaudoises de parents chrétiens. C'est un mouvement en plein essor actuellement. Il vient de traduire justement des textes américains du mouvement de reconstruction chrétienne. Mais en même temps, il y a des notes qui me paraissent mériter l'appellation intégriste, surtout que consciemment, il fait alliance avec les intégristes catholiques. J'ai lu récemment le texte d'une causerie qu'il a donnée pour une association de catholiques intégristes du Valais, avec lesquels il fait manifestement cause commune. C'est assez intéressant à observer. Je ne critique pas du tout. Je vous présente cet ensemble-là. Ça, c'est le premier grand courant, vous voyez, avec cette multiplication de nuances que l'on peut intégrer. Deuxième grand courant, celui pour lequel le terme clé, c'est implication sociale de l'Évangile. Sans doute celui qui correspond le mieux à la note dominante à Lausanne. Alors, je veux dire au congrès de Lausanne de 1974. Déjà, un homme comme Karl F. Henry, après la Deuxième Guerre mondiale, avait critiqué le fondamentalisme en écrivant un livre sur la conscience mal à l'aise du fondamentalisme moderne. Dans ce sens, le fondamentalisme s'est enfermé dans un ghetto, n'a pas fait face à ses responsabilités sociales, sociopolitiques. Le mouvement a pris de l'ampleur depuis. Là aussi, il y a des nuances, il y a des gens qui sont plus près de la tendance théonomique, d'autres qui sont plus près de courants de type libéral en matière sociopolitique. Mais on sent bien qu'il y a une communauté d'orientation. Je pense qu'un homme comme John Stott pourrait être cité comme très haute figure quant à cette seconde orientation. Son souci d'un témoignage chrétien dans la culture s'est marqué récemment par la fondation d'un institut pour le christianisme contemporain à Londres. Un institut qui n'est pas un institut public ordinaire, qui est plutôt pour les gens qui ne seront pas pasteurs, qui peuvent passer un certain temps de formation, et de formation en vue d'une action, d'une influence dans le monde moderne, selon les diverses sphères de la culture. J'ai eu l'occasion de faire une série d'études bibliques dans cet institut. John Stott a voulu m'y associer un petit peu. C'est une entreprise intéressante. Son directeur, Andrew Kirk, est un théologien qui est assez ouvert à des thèses critiques, comme on en développe beaucoup en Amérique du Sud, où il a longtemps vécu, contre le système capitaliste, par exemple. Mais c'est un deuxième courant où il s'agit surtout de voir ce que l'Évangile pourra avoir comme implication à côté de l'évangélisation. Troisième courant qui met l'accent sur les deux règnes ou régimes. Ça remonte à Luther, cela, mais c'est très, très efficace dans toute la tradition piétiste. Il y a le règne de César, il y a le cours de ce monde, avec des magistrats, et puis il y a le règne du Christ, qui s'exerce dans l'Église. Entre les deux, pas beaucoup de communication. Les chrétiens vivent dans le règne du Christ, selon leur piété intime, et dans l'Église, ou au moins dans les cercles de piété à l'intérieur de l'Église, pour le piétisme, mais ils sont en même temps dans le monde, chargés de responsabilités. Ils les exercent avec honnêteté, selon une moralité stricte, mais il n'y a rien de très spécifiquement et visiblement chrétien en dehors de ce caractère honnête et droit. Ça, c'est, pourrait-on dire, la ligne dominante dans la tradition piétiste, et peut-être aussi de certains courants liés au réveil, mais ça, c'est beaucoup plus discutable historiquement déjà. En tout cas, la